Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le Canu Info.
Ah,
mais je ne savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h.
Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios.
Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, volémie et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un mille info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, Canu Info du vendredi.
Bonjour, et ben c'est le Canu Info du vendredi. Il est 19h04 et on va commencer aujourd'hui dans la rubrique locale par vous parler des expulsions qui ont eu lieu à la gare de la Pardieu.
Tout à l'heure.
Ah, qui ont eu lieu tout à l'heure.
Oui, okay. Qui ont eu lieu tout à l'heure, oui, tout à fait.
On parlera ensuite de l'Opéra de Lyon et notamment du directeur de ballet de l'Opéra qui a été jugé pour discrimination et harcèlement.
Ensuite, on vous parlera d'une école qui bénit des dieux à Pierre-Bénite.
On enchaînera en parlant des mobilisations de la droite contre les prières de rue d'élus de la droite et d'autres militants de la droite réactionnaire.
Et ça, c'est au niveau national. Et au niveau national, on continuera avec la fin des contrats aidés qui provoquent l'abandon des associations et des personnes qui en bénéficient.
On fera ensuite un petit point sur la réforme de l'université au niveau de la sélection, des bourses et du recrutement au lycée.
On parlera ensuite de la gauche radicale qui est actuellement dans le viseur de la presse.
Et puis, il y a 2 ans, les attentats du 13 novembre et l'état d'urgence.
On écoutera donc 2 témoignages qui reviennent sur l'interdiction de manifester en novembre 2015 et des perquisitions et des assignations qui ont également eu lieu en novembre 2015.
Et puis, on finira avec la rubrique internationale et les brèves du Kurdistan.
Pour finir par le traditionnel agenda.
Lyon, capitale de la résistance. Lyon, capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chante
local.
Et donc on attaque cette rubrique locale par une brève. Toute fraîche puisque tout à l'heure il y a eu une expulsion massive de mineurs sans papier donc à la Pardieu. Donc depuis août, une 60aine de personnes dormaient dans le couloir entre les hôtels de la gare. Les personnes ont été expulsées et le couloir est maintenant grillagé. Il n'y a pas eu d'arrestation, mais des bébés et enfants très jeunes se retrouvent maintenant à la rue. Donc selon RESF, il n'y aurait pas eu de décision de justice et cette expulsion à l'heure en pleine c'est en pleine trêve qui a lieu en pleine trêve hivernale.
Donc elle ne devrait pas avoir lieu.
Non, elle ne devrait pas avoir lieu. Donc voilà. Bref, très bref.
Ok, bah, du coup on enchaîne avec des nouvelles de l'Opéra de Lyon. On vous en a parlé plusieurs fois ici au Canu Info du vendredi. Pour rappel, notamment ce qu'on a dû relayer ici, c'était des notes de frais exubérantes de la part du directeur de l'Opéra de Lyon qui s'est fait pincer, je dirais, de tête en mai dernier. Et récemment, à la rentrée, le directeur, lui, du ballet de l'opéra, qui a été accusé de discrimination envers une des danseuses du ballet, qui venait d'avoir un enfant. Donc il faut savoir que cette danseuse a été en CDD pendant 6 ans, je crois, à l'opéra, a eu un enfant, et quand elle est revenue, on lui a gentiment dit que, en fait, on n'allait pas la reprendre, et pas la reprendre en CDI. Et notamment parce que, comme elle venait d'être enceinte et d'avoir un enfant, elle allait quand même être vachement moins disponible et autres. Et du coup, cette danseuse a eu la bonne idée d'enregistrer ce directeur du ballet, lui tenir ses propos complètement discriminants sur le fait qu'elle allait être moins dynamique et moins disponible. Et donc, elle a porté plainte contre lui pour discrimination. Donc ça, on vous en a parlé ici, je sais plus, peut-être il y a un mois, enfin en tout cas quand c'est sorti dans la presse. Et donc, ce fameux directeur de ballet qui s'appelle Yorgos Loukos a été jugé hier, enfin passé en procès plutôt hier devant le tribunal correctionnel de Lyon, et le procureur a requis contre lui 6 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Donc affaire à suivre, parce qu'on n'a pas encore le
délibéré.
Merci. Voilà. Le délibéré. Mais du coup, je laisse la parole parce que j'ai pas forcément bien suivi, mais plutôt sur la façon dont médiatiquement tout ça a été traité et quand même assez gerbant.
Assez gerbant et malheureusement assez habituel. En fait, on a l'habitude de vous parler souvent du traitement de la presse locale, réserve notamment aux questions de violence sexiste. Hein. On se rappelle notamment de titres récents du Progrès de Lyon Capital, par exemple, il frappe des femmes sans raison, ou encore des drames conjugaux quand un homme descend sa compagne avec un pistolet. Là, en fait, ce qui se passe avec l'affaire de Monsieur Loukos, c'est que globalement, ce qui sert d'illustration à la totalité quasiment des médias, c'est une photo de cette jeune femme qui a porté plainte, c'est-à-dire que lui, on ne saura jamais quel visage il a, etc. Et c'est son nom qui revient. Là, j'ai l'article de France 3 dans les mains, donc l'article de France 3, il donne, par exemple, 3 fois le nom de la personne qui a porté plainte et seulement 1 fois celle du metteur en scène. Donc en fait, on met en avant énormément la victime et c'est sans doute elle qu'on va retrouver le plus facilement, notamment en tapant son nom dans Google, etc. Et puis ce qui est magnifique dans ces articles, c'est qu'ils mettent absolument rien en perspective, à peu près comme d'habitude et comme sur n'importe quel sujet. Mais là, on termine la dernière phrase de l'article de François, c'est donc le nom de la personne que moi je vais volontairement pas citer. Aujourd'hui âgée de 38 ans, n'a pas retrouvé pour l'heure de contrat durable et se prépare à enseigner la danse. Alors ça, c'est dit sur un ton badin, genre il ne se passe rien en fait, et on oublie complètement, dans mettant en contexte, bah oui en fait, elle a simplement porté plainte pour harcèlement et pour discrimination contre quelqu'un de très important dans sa hiérarchie et aussi dans un milieu artistique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui pour des questions de harcèlement sexuel notamment. Et bah très bizarrement, c'est elle qui n'entre pas de travail plutôt que lui qui a des ennuis directement, même si là effectivement il risque quand même relativement gros, c'est vraiment elle qui a des ennuis et elle n'a pas de retrouvé de travail. Bah, c'est très simple en fait, hein, y a une statistique qu'on vous a peut-être déjà présentée, mais qui est 95% des femmes qui portent plainte contre leur employeur ou quelqu'un dans la structure de leur employeur perdent leurs emplois si elles l'ont encore, et comme elle portait plainte parce qu'on ne l'avait pas réemployée, bah, de toute façon il n'y a absolument aucune chance qu'elle le retrouve. Et plutôt dans tous ces petits milieux bien corporatistes, on ne réembauche pas des gens qui ont eu le malheur de soulever quelque chose qui malheureusement est systémique. Voilà, la presse locale, comme d'habitude, compte toujours PQR pour on sait pourquoi.
Actualité locale toujours, le 6 novembre dernier, le numéro 2 de la région Étienne Blanc, qui est donc juste derrière Vauquier, visitait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la nôtre, et en région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite, une école qui fait partie du réseau Espérance Banlieue, réseau dans lequel, école dans lesquelles les élèves doivent notamment porter des uniformes. Ce sont des écoles hors contrat, ces écoles espèrent en ce banlieue, et elles sont le fer de lance de la mouvance réactionnaire républicaine. Alors, il y a assez peu d'inscrits à l'échelle de la France, il y a 350 élèves pour 8 établissements, certains sont en région parisienne, d'autres à Marseille, il y en a dans le nord de la France, à Roubaix, et puis il y en a une donc à Pierre-Bénite, une autre pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, à Saint-Étienne. Alors, ils ont un plan de communication assez rodé, assez efficace, et notamment parce qu'ils ont des parrains médiatiques que les gens connaissent bien, que les spectateurs et téléspectatrices connaissent bien, notamment Harry Roselmack, Alexandre Jardin et Jamel Debbouze pour les plus connus. Et puis, ils peuvent compter sur des reportages bien complaisants à heure de grande écoute sur les formidables chaînes que sont TF1 et M6, qui donc louent les mérites de ce réseau qui s'appelle, je le répète, Espérance Banlieue. Dans ces reportages, on peut voir qu'on met en avant plutôt une école de la seconde chance, on nous parle des mérites égalitaires de ces écoles, du retour de l'autorité du maître et de la maîtresse, des méthodes également pédagogiques jugées révolutionnaires. On y chante la Marseillaise tous les matins, la main sur le cœur, on lève le drapeau dans la cour, on s'y vous voit, entre élèves également, et on y porte, donc comme je vous le disais, un uniforme. Voilà donc une approche de la pédagogie du temps des colonies. Et sous couvert de lutte contre le décrochage scolaire, ces écoles se sont implantées dans les banlieues, donc comme je vous le disais, et notamment à Pierre-Bénite dans la métropole lyonnaise. Alors on peut gratter un petit peu sous ce vernis cathodique et catholique, et c'est notamment la CNT qui nous invite à le faire, qui a un petit peu gratté là-dessus, et qui nous dit que se cache sous cette fondation pour l'école, notamment des groupes liés à la Manif pour tous, à Sens commun, etc. Le fondateur et directeur s'appelle Éric Mestralet, et il est l'ancien attaché parlementaire du sénateur Bernard Seillé. Alors tous ces noms vous dites sans doute rien, mais ce sont des proches d'un nom plus connu, celui de Philippe Devilliers, le monarchiste réactionnaire du mouvement pour la France. Il est engagé avec Civitas contre le mariage pour tous notamment. Espérance Banlieue, ce réseau est donc abrité par la Fondation pour l'école, dont Mestrayer, donc le proche de Devilliers, est aussi le vice-président. Elle est dirigée, cette fondation, par Anne Confinier, qui est décrite comme une égérie de la Manif pour tous. Bref, du beau monde autour de ça. La quasi-totalité des membres de son conseil d'administration sont proches de ce mouvement et des milieux dits traditionnalistes. Autour de ce réseau, on trouve d'autres noms propres. Alors, je vous en cite quelques-uns. Xavier Lemoine, vice-président du Parti chrétien-démocrate fondé par Christine Boutin, et décrit par Le Figaro comme un héros de la droite chrétienne. Voilà. Au vu donc du pédigré d'Espérance Banlieue et de ses soutiens, hein, très, très, très clairement la droite catholique est réactionnaire, la CNT ne s'étonne pas de l'intérêt porté par Laurent Wauquiez, nous non plus, qui avait d'ailleurs visité celle de Pierre-Bénite, celle dont on parle donc en mars 2017 et qui l'est donc visitée à nouveau en ce début novembre 2017. Alors, par
c'est
le pas numéro
lui, c'est son numéro 2.
Oui, à nouveau là par le numéro 2, Wauquiez y était allé en mars, et là c'est donc Étienne Blanc, le numéro 2, qui y est. Voilà. Donc il a assisté, le numéro 2, à la remise des uniformes des élèves. Voilà, les nouveaux uniformes, sans doute avait-il de vieux uniformes pour la rentrée en septembre, et puis on leur en a remis des nouveaux. Voilà pour l'actualité locale.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. National.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et on passe aux infos nationales avec cet après-midi la mobilisation d'une partie de la droite contre les prières de rue en banlieue parisienne. Une centaine d'élus en écharpe tricolore ont tenté aujourd'hui à Clichy, Hauts-de-Seine, d'empêcher des fidèles musulmans de faire leurs prières dans la rue, a constaté une journaliste de l'agence France Presse. L'espace public ne peut pas être accaparé de manière irrégulière, a déclaré Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France, présente au rassemblement organisé à l'appel du maire Les Républicains de Clichy, Rémi Museau. Réunis derrière une banderole proclamant, je cite, « Stop aux prières de rue illégales », édiles, parlementaires, conseillers municipaux, départementaux et régionaux, les Républicains, UDI et Modem, venus pour beaucoup de régions parisiennes, sont sortis de l'hôtel de ville pour aller au devant de quelques 200 fidèles rassemblés dans une rue piétonne pour la prière, comme tous les vendredis depuis le mois de mars. Ces fidèles protestent contre la fermeture en mars de leur lieu de culte en centre-ville, accusant le maire de ne pas leur proposer de terrain adapté avec option d'achat pour qu'ils puissent y construire un nouveau local. Entonnant la Marseillaise, dans une ambiance tendue, les élus se sont massés sur les lieux, allant au contact des forces de l'ordre qui ont reculé, repoussant ainsi de quelques mètres les fidèles musulmans. La police avait déjà évacué le 22 mars la salle de prière de la rue d'Étienne d'Orves au terme d'un long bras de fer entre la mairie, qui veut en faire une médiathèque, et l'Union des associations musulmanes de Clichy, qui refusait de quitter les lieux. Cette salle avait été aménagée sous la précédente municipalité PS et louée sous un bail précaire à cette même Union des associations musulmanes de Clichy, qui voulait la racheter. À l'échéance du bail, le nouveau maire, Rémi Museau, élu en 2015 sous l'étiquette Les Républicains, avait, malgré ses promesses électorales, décidé de transformer en médiathèque le lieu qui accueillait quotidiennement de 3000 à 5000 fidèles. Donc, pour rappel, les prières de rue ne sont pas interdites en France. La loi ne légifère pas à ce sujet. La preuve, la fête mariale des Lumières à Lyon, tout comme les pèlerinages à Lourdes, continuent à nous polluer le paysage.
Tout à fait.
En effet. Et puis alors, aujourd'hui, on était le 10 novembre et les associations, enfin certaines associations en tout cas, organisaient une seconde journée noire pour protester contre la suppression des emplois aidés. Dans une tribune sur Bastamag, Jérôme Poulidor, qui est le réalisateur d'un film qui s'appelle Merci les jeunes, interroge la logique gouvernementale et sa politique visant à faire du social low cost, synonyme d'abandon des populations bénéficiant de l'action des associations. Donc là, on vous donne une lecture légèrement revisitée des explications de Jérôme Poulidor. Donc Merci les jeunes, c'est un film qui raconte la vie d'une association du 93 dans ses relations avec les institutions, dans les rapports et enjeux de pouvoir entre les salariés et les bénévoles. Un modèle d'organisation contre lequel l'État a lancé une charge inédite à l'été 2017, vous en avez sans doute entendu parler, avec la suppression des emplois aidés et l'annulation de 50 millions d'euros de crédits politiques de la ville, pourtant déjà promis aux structures et qui les mettent aujourd'hui en grand danger. Les associations sont les premières à reconnaître que le modèle est imparfait, car comment satisfaire en fait hein, d'emplois jetables comme des contrats d'accompagnement dans l'emploi, les fameux CAE, ou les fameux CUI, les contrats d'initiative emploi, etc. Mais la suppression de ce dispositif aggrave en fait encore la situation et elle a des conséquences directes sur des dizaines de milliers de personnes, salariées ou usagères des associations. Cette suppression en fait elle met en péril l'existence d'un nombre incalculable de petites associations qui malheureusement sont atomisés dans toute la France et ont du mal à s'organiser pour lutter contre ça. Alors, si on veut regarder ce que ça veut dire, hein, il y a notamment l'universitaire Walter Ben-Michaels hein, de l'Université de Chicago qui explique que la diversité n'est pas une critique du capitalisme, mais sa bonne conscience. En fait, les concepts américains qu'on importe énormément aujourd'hui d'égalité des chances et de diversité sont des outils de légitimation des inégalités. Selon en fait l'idée qui est développée par notamment l'idée de diversité, ce qui est injuste, c'est pas qu'un système de domination, de reproduction sociale et de captation de la richesse par une élite, ainsi que le domination raciale qui va avec, mais c'est le fait que des minorités ethniques, sexuelles ou sociales ne soient pas assez représentées parmi cette élite. Alors, cette vision américaine, elle dit qu'il suffirait qu'il y ait plus de femmes, plus de personnes issues des minorités, plus de personnes socialement issues de basse classe, parmi les célébrités et les dirigeants, et puis ça permettrait que la société fonctionne mécaniquement mieux. En fait, c'est une des réponses hein, qui a été apportée déjà cette idée-là à la suite des émeutes survenues dans les banlieues à l'époque de l'automne 2005, hein, juste après l'assassinat de Ziad Ebouna dans un transformateur. Le tissu associatif a alors été considéré par le pouvoir comme un relais de la politique de la ville et il a été chargé, entre autres, de faire la promotion de la diversité. avec des choses plus ou moins réussies. On se souvient notamment de l'épisode de Ni pute ni soumise. 10 ans plus tard, la mauvaise conscience du capitalisme semble s'être un petit peu évaporée. La méritocratie n'est plus vraiment répandue, et au point que ceux qui ne sont rien, comme dit notre président Macron, ne méritent vraiment plus beaucoup d'assistance. Et de ce fait, les associations, notamment celles de la politique de la ville, seraient donc devenues inefficaces, voire inutiles pour le pouvoir. Nombre des actions proposées par les associations viennent pourtant combler des lacunes des services publics. Il s'agit d'aide aux devoirs, d'alphabétisation, de projets éducatifs, artistiques, sportifs. Il y a aussi des associations qui tournent avec des contrats aidés qui sont dans la merde, qui font de la presse alternative, comme on peut la faire ici à Radio Canus sans aucun salarié. Et alors, l'indépendance des associations, en fait, elle est aujourd'hui, dès à présent, extrêmement relative, et surtout les synonymes de précarité de l'emploi et de conditions de travail dégradées. On peut aussi se demander combien coûterait à l'État et aux collectivités locales toutes les actions de terrain qu'elles en fait délèguent aux associations, si elles payaient correctement les gens. Le modèle de l'entreprise, en fait, il s'applique de plus en plus absolument partout, et notamment aux associations. Et on va prendre l'exemple de la politique de la ville. Des cabinets de conseil privés réalisent, sur la demande de l'État, des audits sur les territoires, édiquent de nouveaux objectifs et des critères d'évaluation. Ceux-ci sont repris dans les appels à projets de l'État, calqués sur le principe de l'appel d'offres commerciales, qui met en concurrence un certain nombre d'associations comme si elles étaient des entreprises, et pour assurer à moindre coût des missions de services publics identifiées. Les appels à projets sont annuels, ce qui plonge en fait les associations dans un perpétuel recherche de réponses à ces appels à projets et dans une incertitude permanente. En fait, ce qu'on demande aux associations, c'est de produire plus de documents officiels, plus de demandes de financement, des documents administratifs plus détaillants, et on fait tout ça en réduisant évidemment chaque année le montant des subventions. En fait, on leur demande même de mesurer des taux de sortie favorables. Vous pouvez retrouver ça dans les documents qu'on peut soumettre pour répondre à un appel à projet à ce qu'on donne une association, comme si en fait la valeur ajoutée d'un atelier d'écriture, d'une sortie culturelle, d'un goûter partagé ou d'une radio associative était immédiatement quantifiable. Alors, solliciter des fondations d'entreprises devient en fait quasiment une recette obligatoire, ça se multiplie énormément parmi les associations, pour compenser les baisses de fonds publics et assurer l'équilibre financier. Si on pouvait déjà s'inquiéter d'un contrôle croissant des projets par l'État et par ses institutions, que dire de la montée en puissance des fondations ? Elles aussi, elles émettent des appels à projets, à peu près de la même manière, mais cette fois, en fait, ce sont les entreprises auxquelles elles sont adossées qui définissent les champs d'action, les critères d'éligibilité, les modalités des aides, en fonction d'une stratégie de communication qui, en général, vise à embellir l'image de la marque. Pour prendre deux exemples, la Fondation Orange soutient prioritairement des projets basés sur les outils numériques, quand la Fondation Vinci, dont on parle, enfin Vinci, on en parle souvent ici, soutient des projets qui sont liés à l'accès au logement. Oui, Vinci agit pour qu'on puisse se loger mieux, on croit rêver. Dans cette même logique, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré que les emplois aidés étaient trop coûteux et inefficaces. Et en fait, il est aussi vrai d'ailleurs que la plupart des associations sont incapables de pérenniser ces emplois pourris. Mais comment en fait pourraient-elles le faire avec des subventions qui fondent de toutes parts ? Alors, la question c'est par qui vont être remplacés ces coûteux salariés dont parle Édouard Philippe et qui vont en fait pas totalement disparaître. La solution est toute trouvée, ça va être des volontaires en service civique, en général sous-payés et sans droits sociaux, et puis des auto-entrepreneurs, parce que c'est le futur qu'on nous promet tous, qui factureront des micro-prestations à de micro-associations elles-mêmes clientes de l'État. À regarder de plus près, en fait, il y a une grande cohérence dans cette explosion des associations et dans la casse du droit du travail actuellement à l'œuvre, menée par le même gouvernement. La casse de toute structure sociale voulait bien un projet qui, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire croire, n'est absolument pas complexe.
Sur cette triste nouvelle, dansez maintenant.
C'est Meridian Brothers. Tout de suite pour vous, les infos vont revenir. Il est 19h28 sur Radio Canu. Et nous allons vous parler dans un instant du retour de l'ultra-gauche.
Pareces llorar, pareces llorar, pareces llorar.
octobre, c'était il y a une grosse semaine, le gouvernement a balancé ses grandes idées pour la réforme de l'université. Cette réforme, elle doit entrer en vigueur d'ici la rentrée 2018, donc c'est-à-dire dans un peu moins d'un an. Et l'idée de cette nouvelle réforme, c'est de transformer l'université en une entreprise à accès limité, qui ne bénéficierait qu'aux bourges et qui, par contre-coup, va transformer le lycée en une arène où vont devoir se départager ceux qui peuvent y aller et puis ceux qui sont dans la merde. Alors on va revenir d'abord un peu sur le fond de cette réforme. Le chaos est prévu en trois coups.
Et bim, premier coup, la sélection.
Alors sans l'assumer ouvertement, le gouvernement va instaurer avec cette réforme une sélection généralisée à l'université. Pour y parvenir, il va procéder en deux étapes. La première consiste à autoriser les filières dites en tension, genre STAPS, psycho, sociaux, droit, et puis il est très couru médecine, à demander des profils aux lycéens qui voudraient les intégrer. Ceux qui voudront être sélectionnés, en plus d'avoir leur bac, devront montrer par exemple des capacités scientifiques, on sera évalué sur des notes, ou justifier d'avoir fréquenté un club de sport, voire qui sait, une association humanitaire. Mais après tout, les gens de 17 piges sont libres, hein, et puis les critères des universités seront théoriquement explicites.
On suppose déjà que ce sont les classes sociales les plus élevées qui vont s'en sortir. Ce sera à qui a la thune et le temps pour faire de l'aquaponie ou autre activité valorisable à ses bambins. On imagine aussi comment des générations de lycéens et lycéennes vont devoir bouffer ces stratégies parentales toujours plus pesantes pour être sûrs d'intégrer droit ou médecine et faire plaisir à papa, à maman.
Premier coup, deuxième frappe. La deuxième étape de la sélection généralisée sera réalisée par les facs elles-mêmes, les universités, grâce à la magnifique autonomie qu'elles ont acquise dans ces dernières années. On en a pas mal parlé, on s'est battu contre ici, en tout cas la plupart des gens dans le studio. Ces universités, elles sont autonomes désormais. Et elles ont désormais le droit de fixer le nombre de places qu'elles ouvrent dans une filière. Ça, c'est une des grandes lignes de la réforme. Elles n'ont pas d'obligation pour cela de se caler sur la réalité de la demande des lycéens. Les deux autres éléments qui entrent dans cette équation magique qui se prépare sont l'augmentation du nombre de bacheliers à venir et la baisse des dotations de l'État aux universités. Alors on ne doute pas qu'on va très vite avec cette équation facile à voir la plupart des filières de la fac devenir des filières en tension, hein, celles dont on parlait tout à l'heure, et voilà, si toutes les filières sont en tension, bah, y aura de la sélection partout.
Et bam, second coup, le lycée comme agence de recrutement.
Alors désormais, les profs de terminale vont avoir un rôle majeur quant aux possibilités des élèves d'intégrer telle ou telle filière de la fac, voire même sur la possibilité d'intégrer la fac tout court. Au conseil de classe du premier semestre, ils feront des suggestions aux élèves et au conseil de classe du second trimestre, ils donneront leur avis, transmis ensuite à l'université. Les profs de terminale pourront de ce fait faire du chantage aux élèves et les tenir. Va faire le blocus de ton bahut et ensuite demander sociaux. Va dire à un de tes profs que c'est un con ou un droitard, puis tenter droit. Ou plus simplement, va glander comme tout le monde, sécher comme tout le monde, fumer des pétards comme beaucoup au fond de la cour. Alors que désormais, tes profs de lycée, qui sont pas forcément des gens toujours bienveillants, vont pouvoir jouer sur la possibilité de faire des études. Hein ? Tiens-toi, parce que sinon tu sais pas si tu auras la recommandation pour l'université.
Et vlan, troisième coup, les bourses.
Alors ça, c'est un peu le moins clair de leur coup, mais peut-être le plus vicelard. Il semblerait qu'ils profilent un contrat de réussite pédagogique, en tout cas qui s'appelle comme ça, qui engagera les élèves avec l'université. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, hein, ça se dessine, ça fait quelques années d'ailleurs qu'on parle de ce genre de choses, mais est-ce que ce contrat, n'est pas rempli, est-ce que les étudiants ne pourront pas se représenter de la même filière, parce qu'on pourra ne pas redoubler si on n'a pas bien fait ses devoirs. Peut-être, on ne sait pas encore. Par contre, ce qu'on sait déjà, et ça s'annonce vraiment publiquement, ça pour le coup par les institutions en place, c'est que les aides sociales seront a priori conditionnées au fait de remplir ce contrat. C'est donc la fin du tu te pointes aux examens, tu signes et t'as tes bourses, hein, qui étaient quand même les obligations minimales pour l'instant données aux boursiers. Parce que bon, fliquer les chômeurs, les gens qui touchent le RSA, ça suffit pas, faut évidemment aussi emmerder les étudiants et les étudiantes.
Chaos, bilan et allumettes.
Alors, KO, on n'est pas KO, bah non, on n'est pas KO, parce qu'on voit bien que le projet qu'on prépare aux lycéens et aux étudiantes, il est pourri. Mais ce qui inquiète aussi nos dirigeants, on l'entend souvent, c'est qu'ils n'aiment pas quand les étudiants et les étudiantes et les élèves, les lycéens et lycéennes se bougent et bloquent leur bahut et les rues. Bah, ça, peut-être que finalement, ça ressemble à un début de stratégie pour un mouvement à construire.
C'était sur toutes les ondes, à la télévision, sur BFM, dans tous les papiers, le canard enchaîné et le monde, la gauche radicale revient, revue de presse.
La multiplication ces derniers temps d'actes de sabotage revendiqués par des groupes anarchistes, l'incendie des gendarmeries de Mélan et de Grenoble pour ne citer qu'eux, semble mettre en ébullition les médias autant que les services de renseignement. Le spectre de l'ultra-gauche hante de nouveau l'hexagone.
Oh.
Le mois dernier, le journal Le Parisien nous gratifiait d'une double page intitulée « Inquiétante ultra-gauche ». Cette semaine, c'est au tour du Monde et du Canard Enchaîné d'enquêter sur ce sujet vendeur. Dans un article intitulé, je cite, « La police patine sur les attaques de la gauche radicale », les journalistes du Monde nous apprennent que 8 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, mercredi 8 novembre, dans le cadre de l'enquête sur l'incendie volontaire de voitures survenue à la gendarmerie de Mélan, dans la nuit du 25 au 26 octobre. Ces individus, issus de la petite délinquance, ont tous été relâchés au bout de quelques heures, le motif d'une vengeance personnelle n'ayant finalement pas été retenu comme plausible. D'après Jean-Yves Coquilla, le procureur de la République de Grenoble, l'enquête s'orienterait de nouveau vers le scénario de, je cite, « une action de la gauche radicale ». Le texte de revendication de cette action, publié sur différents sites indie médias, considéré dans un premier temps comme, je cite, « opportuniste », semble aujourd'hui pris au sérieux par les services de police. Toujours dans cet article, on apprend que les enquêtes sont difficiles, dixit une source proche du ministère de l'Intérieur, qu'il s'agit d'une, je cite, « nébuleuse aux multiples facettes » et aux appellations variées telles que, je cite, « ultra-gauche, anarchiste, autonome, zadiste ou encore bloc-bloc ».
Ça fait peur.
Mais bien souvent contestée par les personnes qu'elle désigne. D'après le directeur général de la Gendarmerie nationale, cette nébuleuse regrouperait environ 2000 personnes et serait tout sauf une organisation carrée. D'où la complexité des enquêtes. Pour le procureur de la République de Grenoble, il ne s'agit pas forcément des mêmes auteurs concernant les actions de sabotage revendiquées ces derniers mois. D'après les journalistes du Monde, fin lecteur d'Indie Média Nantes, malgré les multiples facettes de la nébuleuse ultra-gauche et les différentes signatures utilisées dans les communiqués, il existe une proximité de pensée entre les textes de revendication. Je cite « Le point commun qui ressort des textes de revendication semble en outre être un penchant pour l'insurrectionnalisme et l'anarchisme individualiste. » Leurs auteurs défendent les vertus d'agir à peu, en opposition au spectacle bien triste du militantisme et à celles et ceux qui échafaudent plans et stratégies pour une éventuelle et lointaine révolution. Nos journalistes du Monde sont donc bien renseignés. Un peu plus loin, l'article donne la parole à un cadre du ministère de l'Intérieur qui nous donne des clés de compréhension quant aux motifs qui peuvent animer les auteurs de ces faits. Je le cite... Il y a une exaspération par rapport à la façon dont évolue la société, et il existe des raisons pour que les personnes considèrent que la voie démocratique n'étant pas couronnée de succès, il faut radicaliser l'action.
Ils sont pas cons.
Enfin, un cadre d'un service de renseignement nous indique qu'il y a actuellement une structuration de la mouvance et une progression d'intensité d'action. Il y a un débat entre nous, dit-il, mais on n'est pas loin de penser qu'on est dans du pré-terrorisme.
Ouais...
Le Canard Enchaîné, quant à lui, titre son article « L'ultra-gauche, nouvel ennemi de Macron ». Il nous indique que le sujet est préoccupant pour l'Élysée. Je cite un passage de l'article. « Depuis peu, elle, donc cette mouvance de l'ultra-gauche, est aussi l'invitée régulière des réunions hebdomadaires du Conseil national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, la désormais fameuse task force présidentielle, chargée de faire travailler les services entre eux. D'après un membre de ce service, leur fonctionnement ressemble à celui des terroristes de l'État islamique. L'auteur de l'article tempère quelque peu ses propos, rappelant, je cite, qu'ils ne sont tout de même pas adeptes des attentats aveugles et des décapitations. Le lecteur est rassuré. D'autant plus qu'un haut magistrat, cité un peu plus loin, ne partage lui non plus pas tout à fait les vues de ces néo-RG. Je cite, « Jusqu'à preuve du contraire, nous avons affaire à une bande d'écervelés. Dangereux, certes, aussi bêtes que méchants, mais rien à voir avec Daesh. Les services enquêteurs font monter la mayonnaise. » L'article conclut en nous apprenant que le parquet antiterroriste s'est récemment interrogé sur l'opportunité d'ouvrir une enquête nationale, mais que le syndrome Tarnac, cette longue et fastidieuse enquête antiterroriste imputant des actes de sabotage sur des lignes ferroviaires à un groupe de gens issus du village de Tarnac, requalifié depuis lors en association de malfaiteurs, est dans tous les esprits, en particulier dans celui de l'actuel procureur de la République de Paris, François Molins, à l'époque directeur du cabinet de la garde des Sceaux, Michel Alliomari, celle-là même qui fut à l'origine de l'affaire Tarnac. En attendant, les sites participatifs Indymedia Nantes et Grenoble ont reçu plusieurs requêtes administratives les inclinant à retirer de leur publication des textes de revendication sous peine de fermeture du site au motif de provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Après avoir cédé à la première requête, les administrateurs de ces sites ont fait le choix de conserver la publication des textes incriminés. Plus d'infos sur Indymedia Nantes et Indymedia Grenoble.
Alors sans doute, les services de renseignement, de la police, les médias seront-ils rassurés? Sont-ils rassurés? Depuis que le 1er novembre 2017, on vous en a parlé dans le Canu Info, une nouvelle loi a abrogé l'état d'urgence et l'a surtout remplacé, je cite, « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ». Cette loi donc intègre le droit commun et ce sont des mesures qui sont fortement inspirées par l'état d'urgence. Alors on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a à peu près 2 ans jour pour jour, le 13 novembre 2015, une fusillade amène à des centaines de morts au Bataclan, une salle de spectacle à Paris, et derrière ça, eh bien, c'est la promulgation de l'état d'urgence, une loi qui est née en 1955 pendant la guerre d'Algérie et qui transfère des pouvoirs détenus par le juge judiciaire qui est reconnu normalement comme indépendant, des pouvoirs qui sont donc donnés directement aux autorités administratives, qui sont par essence des autorités politiques. Quelles sont les conséquences de ces 2 ans d'état d'urgence en France, 2 ans pendant lesquels il a quand même été prolongé 6 fois avant d'être intégré donc dans le droit commun? Eh bien, il a donné lieu notamment à 710 assignations à résidence, 4500 perquisitions administratives sans autorité judiciaire, c'est ce que permet l'état d'urgence, et des dizaines de manifestations interdite. Selon un rapport d'Amnesty International, seuls 0,3% des mesures liées à l'état d'urgence, donc moins de 1%, ont débouché sur une enquête judiciaire pour fait de terrorisme. L'état d'urgence a donc touché, et a touché plutôt principalement, des personnes de confession musulmane et ou des militantes et militants. Voilà, alors on a récupéré des extraits d'un documentaire rapide qui a produit 5 portraits. Ce documentaire s'appelle Portrait d'urgence et on va vous en diffuser 2 extraits. Le premier extrait donne la parole à des manifestants et manifestantes qui étaient place de la République le 30 novembre 2015, c'était donc 15 jours après les attentats, l'état d'urgence était promulgué et surtout à Paris il y avait l'organisation de la COP21. Et ces manifestantes et manifestants, ben, ils entendaient montrer leur désaccord avec cette COP21 et rappeler ben, qu'en fait quand on parle de climat et qu'on invite les chefs d'État et des grandes multinationales, et ben, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Cette manifestation était interdite, mais il y avait quand même du monde, place de la République, on entend les témoignages.
C'est un point de vue politique de dire on nous interdit de manifester, on y va quand même. C'est pas pour dès que la police décide qu'on doit y aller, bah, de s'y plier quoi. On n'avait pas envie de partir alors que les policiers nous le demandaient et nous le faisaient comprendre à coups de gaz lacrymo, etc.
On se baladait, il y avait vraiment une bonne ambiance, quelques cortèges politiques qui commençaient à se mettre en place, mais c'était vraiment tranquille. On montrait que la COP21 était un sujet qui nous intéressait, qu'on ne voulait pas qu'il y ait un monopole de la parole politique là-dessus. C'est vraiment en discutant avec les gens qu'on s'est rendu compte que la place était quadrillée de partout.
Au final, rapidement, il y a eu des échauffourées entre eux. Je sais jamais comment qualifier ces gens, parce que je pense qu'ils n'ont même pas envie d'être qualifiés eux-mêmes. C'est des gens qui ont des moyens d'expression politique qui peuvent mener à la violence et aux altercations entre les forces de police et eux-mêmes. Donc il y a eu des gaz lacrymaux qui ont rapidement été lancés. En une heure, les flics, les forces de police ont quadrillé un peu la place, nous empêchaient de partir. Les bouches de métro étaient fermées. Ils ont fait plusieurs groupes, plusieurs NAS. On a été enfermés par des cordons de policiers pendant plusieurs heures. Et rapidement, ils nous ont resserrés de manière assez étouffante, parce que c'est oppressant, même si tu es à l'air libre.
Certains tombent, il y a des personnes âgées qui sont plus ou moins traînées au sol, il y a des gens qui vraiment se font arracher leurs vêtements.
Et je pense qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de personnes en une quinzaine de minutes qui ont été sorties une à une et mises dans des premiers fourgons. Impossible de savoir ce qui se passait, aucun contact avec les policiers sur rien. Et après, des fourgons de flics sont arrivés.
Et puis ils ont demandé des volontaires pour monter dans les bus. Comme on en avait tous absolument marre d'être là et qu'on croyait que c'était qu'une grosse farce policière qui était en train de nous tomber sur la gueule, on nous avait dit que c'était des contrôles d'identité au commissariat. Bon, on était plusieurs à demander à partir. Donc on est monté volontairement.
C'était assez étrange cette scène de les gens se portent volontaires pour entrer dans des fourgons de police. Enfin, avec les policiers qui nous disaient pas tous à la fois, pas tous en même temps. Enfin, c'était... Mais tout le long, mais du début à la fin, de la place de la République à la fin de la garde à vue, les flics comprenaient rien. Ils étaient débordés, ils n'avaient pas besoin de ça, ils n'avaient pas envie de ça. Quand on est arrivé au commissariat de Bobigny, ils s'attendaient à avoir des méga casseurs hyper vénères. Et ils débarquent avec des gens qui chantaient des chansons de colonies de vacances. Enfin. Et surtout, nous, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi les premiers ont eu leur contrôle d'identité. Et nous, on a été mis en garde à vue, et à un moment, j'ai été pissée au commissariat de Bobigny, et la porte ouverte, parce qu'il n'était pas le droit de pisser la porte fermée. Et j'ai entendu des flics qui disaient, bah, ça vient du haut, hors du préfet, donc hors du ministère, quoi. Et donc ça venait du haut, je pense que c'était une réponse à la destruction du mémorial qui avait été détruite, et il fallait annoncer des centaines de gardes à vue, donc 317 exactement, histoire d'avoir une réponse politique ferme au fait qu'on ne détruit pas le mémorial de la République, chose qui est bien évidemment fausse. Il y a peut-être quelques personnes qui ont jeté des bougies, mais la majeure partie du mémorial, et ça a été prouvé par des nombreuses vidéos, ce sont les policiers eux-mêmes qui ont marché dessus sans prêter attention à quoi que ce soit. Et moi, une autre chose qu'on a su après coup, à force de témoignages et de rencontres avec des gens qui avaient vécu la même chose que nous, c'est l'arbitraire total. Les différences de traitement et donc l'arbitraire total qui a lieu entre les différents commissariats et les différentes personnes.
Je trouve qu'il n'y a rien de pire encore que des revendications politiques soient pas entendues, soient pas écoutées. C'est déjà hyper désagréable, mais limite c'est le jeu démocratique. Mais quand on commence à les rendre indécentes et les rendre carrément inaudibles et intolérables dans les médias et auprès de la sphère politique, on atteint un stade qui est ultra dangereux. Parce qu'il n'y a plus rien qui est possible, sauf suivre le chemin que des gens ont tracé pour nous, alors qu'on ne l'a pas décidé, quoi. Et moi, c'est ça qui me rend presque le plus triste dans cette affaire-là, c'est que je ne me suis pas trompé. Et ça fait mal de se rendre compte qu'en fait, on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas fantasmé une situation politique et on l'a pas aggravée, quoi. Non, elle est peut-être même pire que ce que je pensais.
Voilà pour ce premier témoignage et on regarde l'heure tournée, il est 19h47, vous êtes toujours à l'écoute du 102.2 Radio Canu, c'est le Canu Info et on n'aura pas le temps de vous passer le deuxième témoignage que vous pourrez retrouver sur Portrait d'urgence, vous tapez ça dans votre moteur de recherche et vous tomberez sur ces 5 témoignages. En attendant, on enchaîne sur l'actualité internationale et vous allez retrouver les célèbres brèves du Kurdistan qu'on vous envoie tout de suite avant un agenda bien fourni.
Comme on vous expliquait déjà les semaines précédentes, la situation au Bachour, donc c'est le Kurdistan du Sud en Irak, ne cesse de se dégrader dans un grand flou général. Il y a vraiment une crise politique et militaire très importante des suites du référendum du 25 septembre 2017. Depuis quelques jours, en fait, le gouvernement irakien a demandé la dissolution du gouvernement régional du Kurdistan irakien, donc c'est le nom donné au Kurdistan irakien depuis son autonomie en 2005. ce qui fait que l'ensemble des partis politiques kurdes du territoire sont en crise en ce moment. Donc l'ensemble des partis politiques au Kurdistan irakien, c'est le PDK, donc Parti démocratique du Kurdistan, l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan et Goran. Et en plus de ça, le gouvernement irakien a coupé les fonds publics qui permettaient de financer le système de santé au Kurdistan irakien. Et toute la région se retrouve donc dans l'impossibilité de fournir un système de soins et de payer les salaires du personnel médical. À Kirkuk, donc c'est la première ville des territoires dits disputés qui a été reprise de force par les milices Hashad al-Shaabi puis l'armée irakienne il y a quelques semaines. Donc à Kirkuk, il y a deux bombes qui ont explosé contre les milices Hashad et ont fait plus d'une dizaine de morts. Donc c'est en protestation à la reprise de ces territoires par l'armée irakienne et les milices. En tout, depuis le début des conflits au Kurdistan irakien, donc depuis fin septembre, il y a environ 60 peshmergués qui ont été tués et plus de 150 qui sont en ce moment même recherchés. En plus des menaces de l'Irak au Kurdistan irakien, la Turquie et l'Iran maintiennent une pression sur la région et sur les parties de guérilla kurdes qui y sont réfugiés. Donc les parties de guérilla kurdes qui y sont réfugiés, c'est le PKK, le PDKI, donc Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, et le Komala. Et la Turquie a notamment bombardé le mont Assos, près de la ville de Souleymaniye, donc c'est là où est établi le camp de base du Komala, par exemple. Et la République iranienne a quant à elle survolé la zone avec des avions de combat, en dépassant ostensiblement les frontières du Kurdistan irakien. Au Rojelat, donc c'est le Kurdistan de l'Est en Iran, la guérilla continue. Le 4 novembre, il y a au moins deux pasdaran, donc ce sont des membres des forces d'élite iraniennes, qui ont été abattus dans un clash avec les peshmerga du PDKI dans les montagnes de Chnou. Le 29 octobre, la police iranienne a brusquement pris en chasse et ouvert le feu sur une camionnette, donc près d'une station-service de la ville de Pavay. Et la camionnette, elle transportait juste des vêtements en fait importés d'Irak. Il y a de nombreuses personnes qui ont été touchées et toutes celles et tous ceux qui ont tenté de protester ont été violemment battus par la police. Et donc pour situer, Pavay, c'est une ville frontalière de la région de Haouraman. Et pour comprendre cet acte, en fait, il faut savoir que cette région, elle est fortement appauvrie par la répression et les politiques de sous-développement programmées menées par l'Iran. Et les habitants et les habitantes de la région, subsistent que à partir de la contrebande de petites marchandises de part et d'autre de la frontière irako-iranienne. Et par conséquent, les personnes, en fait, femmes et hommes qui sont chargés du transport de ces marchandises, elles sont appelées kolbar, et ils subissent une répression sanglante par l'Iran, dont les gardes frontières abattent à vue celles et ceux qu'ils croisent, en fait. Et cette semaine encore, il y a une personne qui est morte et trois autres qui ont été blessées. Notamment après avoir marché sur une mine posée par les gardes frontières iraniens. En plus de tout ça, l'Iran a torturé un enfant de 13 ans à la frontière entre le Rojelat et le Bakour, donc précisément dans le village de Ketur, près de la ville de Khoy à Urmiye. Et fin octobre, un rassemblement a eu lieu devant une école de la ville d'Urmiye, donc là on est toujours au Rojelat, c'est-à-dire au Kurdistan de l'Est en Iran, et les manifestants et les manifestantes ont réclamé l'arrestation du concierge de l'école après que celui-ci ait violé une jeune fille de 12 ans. La famille avait déjà signalé les faits et aucune démarche n'avait été engagée ni par l'école ni par la police. Et finalement, la police a violemment dispersé le rassemblement, suite à quoi, du coup, des émeutes ont éclaté jusqu'au soir dans les rues du quartier. Et durant la nuit, 50 personnes ont été arrêtées à leur domicile par les forces spéciales. Du côté du Bakour, donc le Kurdistan du Nord en Turquie, les affrontements entre la guérilla du PKK, donc elle s'appelle les HPG, c'est le bataillon mixte du parti, et les Hijastar, donc c'est les bataillons non mixtes de femmes, se poursuivent. C'est principalement à Chukurja, donc dans le district de Hakkari, que les affrontements sont extrêmement intenses entre la police turque et les bataillons du PKK. Et en réponse aux pertes militaires que la Turquie subit, celle-ci a bombardé des villages à Kandil, au Kurdistan du Sud, donc en Irak, notamment les villages de Enze et Komtam. En fait, elle bombarde le mont Kandil parce que c'est là-bas que le PKK a établi ses camps de base depuis longtemps maintenant. Donc du coup, c'est une attaque directe sur le parti. En plus de ça, il y a un enfant kurde de 5 ans qui a été blessé par des soldats à Batman et qui est mort des suites de ses blessures. Et enfin, la police turque a cassé des tombes au cimetière de Yeniköy, donc dans la ville de Hamet. Et en fait, ce cimetière est très symbolique parce que c'est là où sont enterrés les combattants et les combattantes des YPEC, donc c'est les unités de défense civile. Et ces combattants et combattantes, en fait, ils ont lutté en 2015 contre la guerre civile coloniale relancée par l'État turc. en parvenant à autonomiser un certain nombre de quartiers et de villes au Kurdistan du Nord, notamment le quartier de Sur à Ahmet. D'un autre côté, les arrestations se poursuivent. À Urfa, 11 personnes ont été arrêtées pour, donc là je cite, propagande pour une organisation terroriste. Et elles ont été arrêtées en fait au cours d'un raid mené par la police turque dans les maisons. Sur les 11 personnes, il y en a 4 qui sont emprisonnées à Urfa et 7 autres qui ont été placées sous détention provisoire. À Ahmet, toujours dans le quartier de Kayapınar, il y a un autre raid qui a été mené dans une maison par la police turque. Et durant le raid, il y a un hélicoptère qui surveillait la maison notamment, il y a des coups de feu qui ont été tirés, et pour l'instant, il y aurait 2 morts et plusieurs blessés. Enfin, la justice turque a emprisonné Bekir Kaya, donc le commère de Van, et membre du PPP, le Parti démocratique des régions. Enfin, pour avoir une perspective un peu plus globale des violences en Turquie, il y a un rapport sur les violences faites aux femmes qui est paru ce mois-ci. Donc d'après ce rapport, qui est appelé We Will Stop Feminicide Platform, c'est une 40aine de femmes qui ont été tuées en Turquie au cours du seul mois d'octobre 2017. Et ces chiffres, ils sont établis uniquement à partir des informations collectées par des médias. Donc autrement dit, le nombre réel est en réalité bien plus important.
Merci fortement les copines qui nous envoient chaque semaine des nouvelles du Kurdistan. Bon, c'est souvent relativement triste, mais il faut quand même se rappeler que là-bas, c'est quand même aussi ce qui se joue beaucoup actuellement, de gens qui se battent et qui, des fois, ont de jolies victoires. En attendant, nous, on va vous inviter à venir à pas mal de choses, plus ou moins gays, sans doute de faire aussi un petit peu la fête. C'est tout de suite. Là,
c'est quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Ouais, c'est l'agenda. Alors, ça a déjà commencé, c'est à la librairie de la Griffe ce soir, c'était de 19h30 et c'est jusqu'à 23h, vous avez le temps d'y aller. La thématique de la discussion, la révolution russe du côté des anarchistes, que s'est-il passé en 1917-1918, quel rôle joué par les anarchistes et les anarcho-syndicalistes, tout cela et bien plus encore, voilà ce que promet cette discussion. Dossier spécial d'Alternative Libertaire, présentation faite par Guillaume d'Avranches, auteur de Trop jeune pour mourir, et cette présentation c'est évidemment dans le cadre du festival Novembre Libertaire dont vous avez pas mal entendu parler sur les ondes de Canu. Voilà. Et demain, alors c'était toute la semaine, à Roibon, on vous a parlé également de Roibon dans les derniers Canu Info, ils ont eu des petits soucis, il y a eu notamment une cabane qui a été vandalisée, qui a brûlé. Alors ils ont organisé toute la semaine une semaine de reconstruction, un chantier ouvert, et demain soir, eh bien, il y a une grande fête sur la ZAD de Roibon pour fêter cette reconstruction. C'est donc samedi soir, samedi 11 novembre. Et qu'est-ce qui se passe autrement si on n'a pas le goût d'aller jusqu'à Roibon?
À Lyon, toujours dans le cadre du mois de novembre libertaire, a lieu demain toute la journée une journée d'information publique intitulée « Organisons-nous contre l'extrême droite ». C'est à partir de 10h à l'espace Jean Couty, 1 rue de la Pépinière Royale, à côté de la station de métro Grange Blanche, et c'est organisé entre autres par le collectif 69 de vigilance contre l'extrême droite, la CGA, Acrimed et les Amis du Monde Diplomatique.
À noter en particulier deux ateliers, un organisé par le planning familial à 16h dans le cadre de cette journée qui s'intitulera La défense des droits des femmes contre les extrêmes droites en Europe, un autre organisé par le collectif des étudiants et étudiantes étrangers de Lyon, Sans Papiers et Solidaires, qui invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à la rentrée, qu'ils soient français ou étrangers, avec ou sans papiers, celles et ceux qui dorment dehors au début de l'hiver, ainsi que toutes les personnes solidaires et qui ont invité donc à cette soirée demain, avec au programme à 16h discussion sur les problèmes d'accès à l'université, sur les modalités d'organisation possibles pour répondre à ça. À 18h, une lecture de Sabrina Laure, puis une discussion sur les problèmes quotidiens des sans-papiers. À 20h, un repas prix libre et ensuite des concerts et la fête. Pour avoir plus d'infos sur le lieu, il faut envoyer un mail à collectif.étudiant.com avec un S, point étranger avec un S, point Lyon, @riseup.net.
Ensuite, toujours samedi, donc à partir de 19h, il y a une cantine prix libre. Donc c'est la grande inauguration d'une cantine populaire à Charpennes. Donc c'est une bouffe prix libre en musique. C'est le collectif Footwork qui organise du coup une expo avec photos, dessins et fanzines. Donc à partir de 19h, pour avoir l'adresse exacte, il faut envoyer un mail à processus23@riseup.net. Voilà, donc c'est à Charpennes.
Et puis comme à chaque fois, on vous parle beaucoup de lieux pour lesquels il faut envoyer un mail pour avoir le nombre du lieu. Si vous voulez retrouver le mail parce qu'on parle trop vite ou vous n'avez pas eu le temps de noter, vous rendez sur rebellion.info et vous trouverez aussi l'information sur Rebellion. Moi, vous la donnez tout de suite, c'est que lundi 13 novembre, il y aura la traditionnelle permanence juridique en soutien aux sans-papiers qui se tient à Lutine. La Lutine, c'est 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement et c'est à partir de 18h30 pour des soutiens juridiques aux sans-papiers.
Voilà, et juste à côté, puisque c'est à l'atelier des canulars, le même jour, quasiment à la même heure, il y a une soirée festive avec la chorale des canulars, avec bien sûr des chants de lutte à chanter ou brailler, suivant votre voix et votre humeur, des vidéos surprises, un karaoké, des chants révolutionnaires, oui, ça existe encore, de la bonne bouffe, et le bar sera ouvert en soutien à l'atelier, donc... et je me suis gouré, c'est pas le... lundi, c'est mardi. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi.
C'est lundi 13 novembre, c'est donc lundi 13 novembre, qui était un lundi.
Mon papier est foireux, en fait, je trouve.
Tout à fait. En attendant, il y aura aussi, donc du coup, ça va être a priori le mercredi 15 novembre, pour le coup, non, c'était bien le 14 novembre, le truc d'avant. C'est bien le mercredi 15 novembre, on s'excuse beaucoup. Si vous croyez que, par exemple, peut-être révolutionnaire, le municipalisme, vous pouvez aller discuter du municipalisme et de la démocratie directe avec des exemples, ceux de Saillant, de Gros.